Bien, je voudrais saluer tous les frères et sœurs qui sont réunis aujourd'hui encore pour ce moment d'écoute de l'Évangile de Christ. C'est toujours bien lorsque nous pouvons nous réunir et prendre la parole comme nous faisons pendant ces moments et écouter la parole de Dieu. Il nous faut ces moments-là. Alors, je vous invite à regarder avec moi de nouveau dans Jean 17, parce que c'est ça le chapitre que nous traversons ensemble. Et je voudrais reprendre avec le verset 3, où nous avons laissé le message hier, et je voudrais vous parler sur cette question. Qu'est-ce que la vie éternelle? Nous sommes en train de lire ici la prière du Seigneur Jésus à son Père tout juste avant d'aller à la croix. D'ailleurs, simplement sur ce modèle de la prière du Seigneur Jésus, nous pouvons apprendre beaucoup au sujet de la prière. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent des livres au sujet de la prière, mais personnellement, je préfère lire ce que la Bible dit au sujet de Christ et sa manière de prière. Voilà le vrai maître de qui nous devons apprendre concernant la prière. Mais cette prière en particulier est très importante pour nous qui sommes les enfants de Dieu, parce que nous voyons ici que le Seigneur est en train d'adresser cette prière à son Père en tant que souverain sacrificateur pour son peuple. Il y a beaucoup qui s'imaginent que le salut est comme un contrat entre le pécheur et Dieu. Mais tel n'est pas le cas. Le salut est une alliance entre le Père et le Fils, et cela depuis l'éternité. Ça a commencé depuis l'éternité et c'est pour l'éternité. Mais ça a exigé à ce que Christ lui-même vienne en chair, quoiqu'il existait depuis l'éternité, mais il est venu en chair afin d'accomplir dans la chair tout ce qui était nécessaire pour satisfaire la justice et la loi de Dieu pour le salut de son peuple. Alors c'est notre privilège maintenant de lire ces paroles de Christ adressées à son Père qui nous montrent ce qui était dans son cœur lorsqu'il visait la croix et il se préparait pour lui-même aller donner sa vie à la croix pour ce peuple que le Père lui a donné depuis l'éternité. Mais la question que nous allons traiter aujourd'hui, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, c'est de savoir qu'est-ce que la vie éternelle. Ici, dans le verset 3, c'est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est une explication assez simple, mais je dois dire que c'est une définition que la plupart du monde religieux ignore. J'ose dire que si vous sortiez pour aller dans des milieux, des assemblées dites chrétiennes, et vous posez cette question aux gens, oh, qu'est-ce que la vie éternelle? Vous aurez toutes sortes de réponses. D'ailleurs, ça pouvait être un bon devoir après ce message d'aller dans les rues et demander aux gens bon, qu'est-ce que la vie éternelle? Écoutez leur réponse.
Oh,
La plupart, quand on parle de la vie éternelle, ils imaginent une vie dans le futur. Quelque après la mort vient la vie éternelle. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Pour beaucoup, la vie éternelle, c'est le ciel. Donc, il faut s'efforcer à atteindre la vie éternelle. Il faut, par nos efforts ou bien par une profession, une décision personnelle, atteindre la vie éternelle. Et le monde est rempli de prétendeurs à la vie éternelle. Il y a des prédicateurs qui disent, vous voulez avoir la vie éternelle, alors c'est le moment maintenant de prendre votre décision pour Christ et vous aurez alors la vie éternelle. Voilà comment ils raisonnent. Mais si nous lisons ici dans le verset 3, la manière que le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle de la vie éternelle, c'est une connaissance vraie du Dieu vrai et de son Fils, le Seigneur Jésus. Donc, la vie éternelle exige à ce que Dieu lui-même, par son esprit, se révèle dans le cœur du pécheur pour qu'il y ait cette connaissance de Dieu et de son Fils. Donc voici ici une grande distinction entre ce que les hommes disent au sujet de la vie éternelle et ce que la Bible dit. Nous avons un exemple de cela dans l'histoire de Nicodème, dans Jean chapitre 3. Si vous regardez là avec moi, commençons dans le premier verset. Nicodème était un homme religieux. Il pouvait. Il était un homme qui connaissait bien les Écritures. Il était même doué dans les langues, dans l'original, dans l'hébreu.
Et
On peut dire qu'il était un professeur de théologie. C'est écrit dans le premier verset, il y eut un homme d'entre les pharisiens, donc un homme très doué dans la moralité, selon lui. C'est un homme qui s'est forcé à suivre la loi. Et on peut dire dans le verset 2 de Jean 3 qu'il était quelqu'un qui était curieux au sujet de Jésus-Christ. Il vint lui auprès de Jésus de nuit, c'est écrit. Et on peut dire qu'il avait même un grand respect pour le Seigneur Jésus parce qu'il dit Rabbi. Ça, c'était un terme donné aux grands parmi les pharisiens. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. C'est écrit, il était même convaincu que les miracles que le Seigneur Jésus faisait étaient différents des autres. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je peux dire selon le standard des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, on pouvait dire que Nicodème était alors chrétien parce que le voilà, un homme qui a été attaché à la parole, un homme qui est venu à Christ, il fait une bonne profession, donc un chrétien. Voilà comment le monde raisonne. D'ailleurs, même Nicodème imaginait que le fait de connaître bien la loi, les Écritures, et lui-même, il cherchait le Messie qui devait venir. Donc pour lui, il est en train de voir si tel est, si Christ est ce Messie ou pas. Mais pour lui, il cherchait à avoir la vie éternelle. Et le Messie a été un peu plus de temps. Il y a eu des gens qui ont pris sur le coup de la voiture. Donc, pour moi,
pelo mesmo primeiro tempo anéxico. Porque não tu se mete a algo ruim pela uma maneira que eu não tenho coração.
C'est possible que je suis en train de m'adresser à certains d'entre vous que depuis votre bas âge, vous avez été inculqués dans la parole de Dieu, vous avez appris des versets de la Bible et même peut-être vous avez appréhendé certains faits au sujet du Seigneur Jésus et pour vous, vous avez pris votre décision et voilà, maintenant, vous cherchez à entrer dans la vie éternelle. Vous êtes exactement comme Nicodème. Mais je dois vous dire exactement comme Christ a répondu à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce n'est pas le fait simplement d'avoir certains faits, connaître certains faits au sujet de Dieu et de Jésus-Christ qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est écrit ici, si un homme ne naît de nouveau. Dans l'original, c'est si un homme ne naît d'en haut. C'est-à-dire, c'est Dieu qui doit donner cette révélation pour voir ou percevoir le royaume de Dieu.
Si elle a un royaume, ni personne ne peut pas le voir. Par contre, si on ne peut pas le voir,
l'apôtre Jacques a écrit disant, vous croyez en Dieu, même les diables croient et tremblent. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui tiennent la Bible, et ils disent la Bible est la parole de Dieu, pourtant ils ne croient pas au Dieu de la parole. Il y a une différence. Ils disent que c'est la parole inspirée, mais leur croyance n'est pas basée sur ce que Dieu lui-même dit.
On
va faire un petit test ici. Je vais demander à chacun, là, de lever la main et me dire, qui, là, croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Combien croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Tout le monde lève les mains. Ok, d'accord. Combien encore? Deuxième question. Combien croit? Voilà. Donc, combien croit que Jésus-Christ est Dieu dans la chair? Il y a des mères qui sont debout encore? Ok. Combien croient que Jésus-Christ a vécu une vie parfaite sans péché? Toutes les mères sont d'accord? On peut dire. Combien croient que Jésus-Christ est mort sur la croix? D'accord. Ok. Combien croient que Jésus-Christ est ressuscité des morts, de la mort? Ok. D'accord. Une dernière question. Combien croient que Christ est ascendu au ciel et maintenant au ciel? Tout le monde a parlé. Ok. Bon, voici ce que je vais vous dire. Vous pouvez croire tout cela et ne pas croire plus que le diable. Parce que le diable lui-même sait tout cela. Pourtant, le diable n'a pas la vie éternelle. Donc, vous voyez combien beaucoup de gens se trompent en imaginant parce qu'ils ont appris certains faits pour se rappeler que voilà, je suis enfant de Dieu. Rien ne peut être plus loin que la vérité que cela. Voici un exemple de cela que nous avons dans Marc chapitre 1. Si vous voulez regarder là dans votre Bible, Marc chapitre 1. Ici, le Seigneur Jésus se rendait à Capernaum. Ça, c'était au nord du pays, c'était là où il résidait. Et c'est écrit dans le verset 21, le jour du sabbat, donc à cette époque, les gens se réunissaient toujours le samedi, jusqu'à ce que Christ ait fini son œuvre à la croix et ressuscité. Donc le sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et y enseignant. La synagogue était une assemblée comme nous nous réunissons dans nos lieux de culte. Imaginez si ce n'était pas moi qui enseignais, ou bien le frère Aurélien, mais Christ lui-même est là en train d'enseigner. Christ allait partout enseignant la parole, c'est-à-dire lui-même étant la parole de Dieu. Pourtant, il y avait des foules laissées à eux-mêmes qui n'ont pas compris sa parole. Je dois dire que si Christ venait aujourd'hui entrer dans les synagogues, les lieux où les gens se réunissent pour lire la parole de Dieu, qui ne serait même pas reçu par ceux-là qui se disent chrétiens, parce que ce n'est pas le Christ qu'ils ont été enseignés, ils ont un autre Jésus. Mais ici, dans le verset 22, c'est écrit qu'ils étaient frappés de sa doctrine. On peut être frappé de la doctrine de Christ sans même être à Christ. Et l'explication est donnée ici dans le verset 22, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes, non pas comme leurs dirigeants. Je dois dire que la doctrine que vous recevez, je sais de votre pasteur Aurélien, et que je suis en train de vous donner maintenant, c'est une doctrine frappante. C'est une doctrine différente que ce qu'on entend dans le monde. Donc beaucoup, comme vous, pouvez être là en train d'écouter maintenant pour dire, ah, mais on n'a jamais entendu parler comme ça. Pourtant, ça, ce n'est pas le salut. On peut être frappé de la manière même que Christ enseignait et être perdu.
Voilà.
Et voici dans le verset 23 et 24 la preuve de ce que je disais tout à l'heure. On peut croire beaucoup de choses au sujet de Christ et même de sa doctrine et ne pas croire plus que le diable. C'est écrit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Souvent, quand on imagine quelqu'un avec un esprit impur, on imagine quelqu'un qui le diable a saisi et il est en train d'agir d'une manière bizarre. Et les gens disent, ah, voilà un mauvais esprit. Mais je dois dire que tel n'était pas le cas avec cet homme. Cet homme était comme les autres là. Il venait écouter, il était assis parmi eux, il ressemblait à tous ceux qui étaient là comme un homme qui était déjà enfant de Dieu. Je dois dire que si ceux de l'assemblée de cette synagogue, les dirigeants, savaient que c'était un homme avec un esprit impur, ils n'auraient jamais laissé cet homme entrer. Le point que nous voyons ici, c'est que dans les assemblées où les gens prétendent être enfants de Dieu, il y a beaucoup d'esprits impurs. Nous avons tous cet esprit impur en nous, dans notre chair, dans notre vie, jusqu'au moment où Dieu daigne se révéler Christ dans notre cœur. Mais notez ce que cet esprit impur, c'est-à-dire cet homme, a prié en face de Christ. C'est C'est écrit dans le verset 24. Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Ça, c'est un esprit impur qui est en train de s'adresser à Christ comme ça. Il dit, tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Ça, c'est un diable qui est en train de parler. Je dois dire que cet esprit impur disait beaucoup plus, confessait beaucoup plus que les gens qui se disent chrétiens aujourd'hui. Celui-ci était un esprit impur, pourtant il avait une crainte de Dieu. Je ne vois pas ça dans les gens aujourd'hui qui confessent, qui professent connaître le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas de crainte de Dieu, ils traitent Dieu comme leur ami. Et qui parmi les gens aujourd'hui qui se disent chrétiens ont même une connaissance de ce que c'est d'être perdu? Je dois dire que si vous posez la question à la plupart, ils sont sûrs de leur salut. Ils sont en eux-mêmes, ils savent que quand ils vont mourir, en tout cas, ils iront au ciel. Et combien, comme c'est écrit dans le verset 24, je sais que tu es le Saint de Dieu. Combien ont même une idée de ce que c'est la sainteté de Dieu? Aucune idée. Je dois dire que les gens sont ignorants de qui est Dieu, de qui est son Fils, et ce que c'est d'être sauvé ou perdu. Ils sont ignorants parce que les prédicateurs eux-mêmes sont ignorants. Christ les a décrits comme étant des aveugles qui dirigeaient les aveugles, et les deux tombent dans la fossée. Je mentionne cela parce que tout ce que le celui qui avait cet esprit impur confessé était vrai. Pourtant, il n'avait pas encore la vie éternelle. Donc, à quel moment on peut dire que cet homme a reçu la vie éternelle? Christ n'a pas demandé de lui une décision. 25, que c'est le Seigneur lui-même qui s'est intervenu pour chasser ce mauvais esprit de cet homme. Ça n'a pas demandé une décision de la part de l'homme. Remarquons que c'était en face du véritable Christ que ce mauvais esprit s'est manifesté. La raison pour laquelle ces mauvais esprits restent cachés dans ces milieux religieux, c'est parce que Christ n'est pas prêché. Si vous laissez les gens continuer, si vous laissez les gens continuer dans leur ignorance, donc rien ne va se manifester. Ouais, c'est lorsque Christ est prêché en vérité qu'alors constate maintenant ceux qui sont opposés et qui sont cet esprit d'antéchrist en eux. J'ai trouvé ça à travers les années en prêchant l'évangile que lorsqu'on entre pour annoncer ce Christ de la Bible qui se révèle ici dans les Écritures, c'est là maintenant qu'on voit les gens en train de réagir et on constate en fait qui est réellement à Christ et qui n'est pas à lui. Alors, nous sommes en train d'étudier qu'est-ce que la vie éternelle? À quel moment est-ce que la vie éternelle est rentrée dans cet homme? C'est au moment où Christ s'est révélé en lui en vérité. Il avait le diable en lui qui avait une connaissance, mais verset 25 dit « Tais-toi et sors de cet homme ». Voilà la délivrance. C'est Ce que nous voyons ici, c'est le pouvoir de Christ de sauver qui il veut. Sans dépendre de la décision de l'homme. Voilà ce qui est prêché aujourd'hui, la décision, la décision, la décision. Non, la décision est avec Christ de sauver qui il veut. C'est très, et l'esprit impur, verset 26, sorti de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri, mais néanmoins sorti. Alors on peut dire que c'est pour cet homme que Christ est venu à la synagogue à ce moment-là. C'était pour révéler, se révéler en lui et faire sortir ce mauvais esprit pour que cet homme maintenant soit à Christ. Mais il faut dire qu'il y avait beaucoup d'autres dans la synagogue qui étaient dans le même état, mais Christ a laissé à eux-mêmes. C'est comme nous sommes rassemblés maintenant en assemblée, il y a beaucoup qui sont présents, mais il y en a peut-être si vous êtes une de ces brebis pour qui Christ est venu chercher sauver. Il va se révéler en vous et faire sortir le mauvais esprit dans le sens de toute fausse idée le concernant. Pourtant, il y a d'autres qui vont venir et comme c'est écrit ici, stupéfié de sa doctrine, mais toujours laissé dans leur état de perdition.
Voilà.
De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres qu'est-ce que ceci, mais sans connaître Christ.
Mais quand il est là, il y a des gens qui sont là. Donc, il y a
Peut-être vous me posez la question, mais comment vous savez que ils étaient laissés à eux-mêmes? C'est parce qu'ils se demandaient les uns aux autres. Ils étaient en train de se demander entre eux au lieu de s'approcher de Christ. Il disait dans le verset 27, une nouvelle doctrine. Pour eux, c'était une nouvelle doctrine. Pourtant, ils étaient encore dans leur perdition. Même il commande avec autorité aux esprits impurs et ils lui obéissent. Ils étaient étonnés par son autorité, pourtant toujours perdu. Alors, revenons dans notre texte dans Jean chapitre 17 et le verset 3, nous voyons alors l'importance de ce que Christ dit ici dans sa prière, c'est que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Cela veut dire, c'est une révélation de Christ en eux. On peut continuer?
Oui.
Ok. Donc, voilà ce que nous voyons ici, c'est que on ne peut pas connaître le Père sans le Fils, et on ne peut pas connaître le Fils sans le Père. Mais c'est effectivement pour cela que Christ est venu dans le monde. Si vous voyez dans le verset 4 de Jean 17, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est ici que nous voyons que la mission de Christ en venant dans le monde n'était pas de sauver tout le monde. C'était de glorifier son Père. Voilà pourquoi il est venu. Et d'achever, glorifier son Père, c'est décrit par la deuxième partie du verset, c'est d'achever l'œuvre que le Père lui a donné de faire.
Et
Je dois dire qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui s'imaginent, qui sont enfants de Dieu, imaginant que eux, ils ont achevé l'œuvre de Christ, parce que ce qu'ils ont entendu prêcher, c'est que Christ est venu faire tout ce qu'il peut. Maintenant, c'est à vous de prendre votre décision pour que ça soit efficace. Ça, ce n'est pas ce que Christ dit. Posons-nous la question, quelle était l'œuvre que le Père a donnée à son Fils d'achever? Lisons dans Romains chapitre 3, chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, et nous allons voir ici cette œuvre qu'il a achevée. Notons d'abord dans le verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Si quelqu'un pense avoir fait quelque chose pour plaire à Dieu et pour cela il sera sauvé, nul ne sera justifié de cette manière. Vous voyez ce qui est écrit dans la deuxième partie du verset 20, Romains 3, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il y a beaucoup aujourd'hui qui s'imaginent enfant de Dieu parce que ils s'efforcent à obéir à la loi. Pourtant, la loi n'a jamais été donnée comme moyen de salut. C'est écrit, par la loi vient la connaissance du péché, donc la lumière de la loi que Dieu fait briller dans le cœur d'un pécheur, ça expose davantage son péché, ça n'a jamais été donné comme un moyen de salut. Alors, c'est pourquoi nous lisons dans le verset 21, mais maintenant, cela veut dire depuis la venue de Christ, sans la loi, cela veut dire sans que l'homme n'obéisse à cette loi et manifester la justice de Dieu.
qui avait pour beaucoup de pauvres pour mettre à l'intérieur. Maintenant, on sait même voir un peuple convaincu. Et il puisse les vêtements et il serve sa mère et moi, vêtiteur et la formeur. Oui.
Dans cet écrit est manifestée la justice de Dieu. Cela veut dire est manifestée Christ. Christ est venu pour accomplir la justice de Dieu à l'égard de ces pécheurs que le Père lui a donné depuis l'éternité. Et notez cet écrit à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Ça, c'est l'Ancien Testament. Donc ça, ce n'est pas une nouvelle doctrine, c'est depuis l'Ancien Testament que cela a été annoncé. Mais comment est-ce que ce Christ, qui est la justice de Dieu, peut être connu? Ça, c'est la vie éternelle, afin qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus. Comment le connaître?
Parce que c'est vrai, au Christ, il y a une bonne chose, et il y a une bonne chose, et il y a une bonne chose, et il y a une bonne chose. Donc, il y a une bonne chose,
le verset 22 nous donne la réponse dans Romains 3. Justice de Dieu, notez, par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient.
Verset 22 est la vie. Et là, ma vie, je suis tout le monde, mais oui, pour qu'à mener
c'est écrit, il n'y a point de distinction. Donc, peu importe l'état d'un pécheur, s'il n'a pas cette foi en Jésus qui est révélé au cœur par l'Esprit de Dieu, il n'a pas le Seigneur, il n'a pas la vie éternelle. Il ne faut pas imaginer en lisant le mot foi que cela veut dire ah, donc ça c'est ma décision. Non, la foi ne vient pas de l'homme, c'est le don de Dieu. Personne ne peut croire, ni vous, ni moi, sans que cela ne nous ait donné par Dieu lui-même et son esprit. Cela est évident de par le verset 23, car tous ont péché et sont quoi? Privés de la gloire de Dieu. On ne peut jamais entrer dans cette gloire tant que Dieu lui-même n'agisse dans sa grâce. Comment nous pouvons entrer dans cette gloire et connaître ce Christ? C'est écrit verset 24. Ils sont gratuitement justifiés, notez, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Notez bien, justifié par sa grâce. Cela veut dire que c'est Dieu qui justifie. Ça ne vient pas de l'homme. Et c'est selon sa grâce. C'est pas selon la volonté de l'homme. La grâce de Dieu. Mais notez aussi par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Cela veut dire sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est tout cela vient de Dieu, et c'est ça qui est révélé en Christ, et c'est ça qu'il est venu achever. Alors, ayant dit cela, le reste que nous allons lire ici dans Jean 17, c'est ça qui suit le fait que Christ est venu glorifier son Père et qu'il a achevé l'œuvre que le Père lui a donné de faire. Donc, il ne restait que pour le Père maintenant de glorifier le Fils. Notez le verset 5 de Jean 17. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. Notez, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Ouais, ce n'est pas tout le monde, mais tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi. Cela veut dire depuis l'éternité, choisis en Christ. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole parce qu'ils sont en Christ.
Et
De quoi il dit dans le verset 7, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Notez, ils ont connu. Pourquoi? Parce que verset 6, j'ai fait connaître ton nom à ceux-là. Tout cela est lié au verset 3 de ce que c'est la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Comment le connaître? C'est parce qu'il a fait connaître son nom à ses hommes. Je dois vous dire que tout ce que je suis en train de vous annoncer aujourd'hui au sujet de Christ et sa gloire et son œuvre, et à cause du fait qu'il s'est révélé en moi et m'a ouvert les yeux pour le connaître tel qu'il est révélé ici dans la parole. Autrement, ce n'est pas comme ça que j'étais enseigné depuis mon bas âge. Notez bien l'ordre dans le verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ça, c'est important. Il a donné d'abord et alors ils ont reçu. C'est le contraire qui est prêché aujourd'hui dans beaucoup de milieux. On dit aux gens, ben, il faut recevoir d'abord Christ et alors vous aurez maintenant la vie éternelle. Non, il faut que Christ lui-même se révèle en vous d'abord afin d'avoir la vie éternelle. Ceux qui suivent ici dans le verset 8, ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ça, c'est la suite du début du verset. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. C'est pourquoi ils m'ont reçu. Mais voici encore un point important à souligner dans le verset 9, que cette vie éternelle n'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de prédicateurs qui attendent la fin de leur prédication pour inviter les gens maintenant à prendre une décision. C'est comme si, ah voilà, la vie éternelle, c'est à chacun de venir prendre comme il veut. Non. Vous voyez ce que Christ dit dans le verset 9, c'est pour eux que je prie. Et notez, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Nous avons tous des connaissances dans d'autres milieux où on leur entend dire toujours non, mais on doit être toujours en prière pour prier pour que Dieu sauve le monde. Et je dis, mais même Christ lui-même n'a pas prié de cette manière. Vous savez que si telle était la volonté de Dieu, que tout le monde soit sauvé, on doit dire que Dieu a fait faille, parce qu'il y a beaucoup qui finissent par être envoyés à la perdition. Tout simplement, le verset 9 nous dit qu'il y en a que le Père a donné à Christ et c'est pour eux qu'il prie, c'est pour eux qu'il intercède. C'est pour eux qu'il a donné sa vie. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 10, « Et tout ce qui est à moi est à toi. » Et tout et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je reconnais que ce n'est pas tout le monde qui va recevoir ce message de Christ, mais je sais ceci. Tous ceux que le Père a donné à Christ, pour qui il est mort, ils recevront ce Christ, si, au moment où il plaît à Dieu de le révéler en eux.
Et ma gata, c'est si vous, c'est vous, c'est la prière, c'est la prière.
C'est pourquoi, étant un prédicateur de Christ, je peux simplement annoncer qui il est et pourquoi il est venu et ce qu'il a accompli. Et puis, Dieu lui-même agira comme il veut à travers ce message.
In those words, when I will adopt Christ, it's no time here.
Il y en a qui nous demandent, mais pourquoi vous ne lancez pas une invitation à la fin de vos prédications? Mais la raison est simple. L'évangile n'est pas une invitation. L'évangile est un appel de Dieu et il attirera tous ceux pour qui Christ est mort. Dieu le fera. C'est pas à moi de faire bouger les gens. Et il y en a qui posent la question, mais comment on peut savoir alors qui est à Christ, qui n'est pas à Christ? Christ a dit ça dans le verset 10. Tout ce qui est à moi est à Dieu, et ce qui est à Dieu le Père est à lui. Et voilà le point clé. Je suis glorifié en eux. Écoutez la manière qu'ils sont en train de parler de Christ. Est-ce que Christ est glorifié en toute chose? Sinon, c'est une fausse profession. Quelqu'un ne peut pas être à Christ et ne pas glorifier son nom. Si quelqu'un est en train de parler de sa décision, de ses œuvres, ses efforts, ceci ou cela, c'est évident qu'il est encore dans ses péchés. Celui que Christ délivre, en qui Christ révèle, ne fait que glorifier Christ du début jusqu'à la fin pour le salut. Alors nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Dieu voulant, demain, nous allons reprendre à partir de verset 11 jusqu'au verset 15 et Ma prière, c'est que le Seigneur continue à vous bénir là, sous l'écoute de l'Évangile de la part du frère Aurélien. Nous prêchons le même message. Donc, que le Seigneur daigne prendre cette parole et se révéler en chacun qui lui appartient. Parce qu'il les connaît. Nous ne les connaissons pas, mais il les connaît. Alors, je vais terminer par la prière demandant la bénédiction du Seigneur sur ce que nous venons d'entendre. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que nous venons d'entendre. Merci pour ton esprit qui te révèle dans les cœurs de ceux qui t'appartiennent. Et ma prière, c'est que tu fasses cette œuvre. Nous savons qu'aucune prédication n'est rendue en vain. C'est dirigé là où ton esprit lui-même détermine et au cœur de ceux que tu as rachetés. Alors que tu sois, Seigneur, avec ces campeurs qui continuent à se rassembler dans ce seul but d'écouter ta parole et de partager ensemble ce qui concerne ta gloire et ta grâce. Et pour cela, nous te remercions. Alors que tu fortifies chacun qui a sa part, le frère Aurélien, dans cette prédication, et que tout ce que nous faisons retentisse à ta gloire seule. Et pour cela, je te remercie dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.